Radio Okapi. Le journal présenté par Gisèle Cage.
Bienvenue à notre journal sur Radio Okapi. Voici le principal titre. Rationalisation de la paye de militaires congolais. Le vice-premier ministre de la Défense nationale s'engage à assainir le fichier de la paye. Guy Kabombo en discute avec le comité de suivi et les banques à Kinshasa. Campagne de vaccination contre la poliomyélite. Près de 2 300 000 enfants de 0 à 14 ans attendus pour la vaccination dans la province de la Tchopo. Les autorités sanitaires encouragent les parents à faire vacciner leurs enfants. La synergie de missions d'observation citoyenne des élections dénonce la nouvelle feuille de route de la CENI. Injustifiable et incompréhensible, elle exhorte le Parlement à rejeter ces documents et à demander des comptes à la CENI. Luc Loutala, coordonnateur de cette synergie, dévoile les raisons de cette prise de position dans ce journal. Restez avec nous pour des détails sur ces sujets et bien d'autres encore. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le vice-premier ministre de la Défense nationale s'investit dans l'assainissement du fichier de la paye de militaires congolais. Cela explique l'audience qu'il a accordée mercredi dernier à la délégation du comité de suivi de la paye ainsi qu'à quelques responsables des institutions bancaires à Kinshasa. Ces derniers ont exprimé leur volonté d'accompagner le vice-premier ministre dans ce processus. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
À travers cette démarche, Guy Kabombo Moyen Vita se propose de rationaliser la paye des militaires à cette période où le pays fait face à l'agression. C'est ainsi que le patron de la Défense nationale a échangé avec quelques banquiers sur plusieurs sujets, dont l'encadrement de la paye et l'avancement de ces processus dans le but de trouver rapidement des solutions idoines. Il a également formulé des orientations claires pour qu'en amont de la paye, l'identification des effectifs soit renforcée afin de faciliter les traitements sur la liquidation au niveau du budget et des finances. Pour sa part, l'un des responsables d'une institution bancaire de Kinshasa a salué l'implication du vice-premier ministre de la Défense nationale pour l'assainissement du fichier de la paye des hommes en uniforme. Yannick Dissassi.
Nous pensons que avec la rationalisation de la paye, ça pourrait dégager des économies éventuelles pour essayer d'appuyer le secteur de la défense. Nous pensons, nous, au niveau du comité de suivi de la paix, qui constitue l'organe technique du gouvernement, nous allons accompagner son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans cette démarche pour essayer de rationaliser, la paix.
La solde des militaires et policiers a été doublée depuis le mois de mars dernier par la volonté politique du gouvernement conduit par la Première ministre Judith Suminwa ayant matérialisé la promesse du chef de l'État, Félix Tshisekedi.
La seconde phase du concours de recrutement des enseignants et directeurs dans 10 provinces du pays, dont le Congo central lancé le lundi 7 avril dernier, s'est poursuivi hier jeudi à Matadi. Les épreuves se sont déroulées à l'Institut Monseigneur Lubaka et à l'épée Londé. En présence des autorités éducatives provinciales et nationales, le ministre provincial de l'éducation Thomas Kiakokwa, qui supervise ce concours, a indiqué que ces recrutements visent à remplacer progressivement les agents admis à la retraite dans le cadre du processus de redynamisation du secteur éducatif public. Le point avec Nana Pluriche Mambou.
Ces concours du recrutement des enseignants et directeurs des écoles concernent toutes les sous-divisions des 3 provinces éducationnelles du Congo central. Les candidats enseignants sont soumis aux épreuves telles que la rédaction française, la psychologie, la pédagogie, la didactique, la culture générale, ainsi que la pratique professionnelle consistant à la présentation d'une leçon devant un jury. Pour les postes des directeurs, les candidats ont passé une épreuve écrite en psychologie, pédagogie, gestion scolaire et culture générale, ainsi que d'un entretien professionnel. Les ministres provinciaux de l'éducation, les inspecteurs et les autorités éducatives mettent en avant les candidats en compétences en gestion pédagogique et financière, gestion d'équipe, gestion du changement, communication, citoyenneté active, ainsi qu'en droit de l'homme et de l'enfant. L'épreuve écrite est éliminatoire. Seuls les candidats ayant obtenu un minimum de 60% peuvent accéder à l'entretien et espérer assurer la relève des enseignants ayant atteint l'âge de la retraite. Outre le Congo central, ces concours se déroulent simultanément dans toutes les provinces du pays. Matadi, Nana Pluriche Mambou, Radio Okapi.
Parlons santé. Plus de 2 270 000 enfants âgés de 0 à 14 ans sont attendus pour la vaccination contre la poliomyélite. La campagne de riposte a débuté hier jeudi dans les zones de santé de la province de la Tchopo. Elle intervient après la découverte de plusieurs cas, dont celui d'un enfant de 11 ans dans la zone de santé de Loa, territoire d'Ubundu. Les autorités sanitaires demandent aux parents de faire vacciner leurs enfants car les vaccinateurs passent de porte à porte pour cette activité. Jacques Moukonkolé, reportage.
À ce premier jour de campagne, tout se déroule normalement sur le terrain, déclare le docteur Stéphane Itekama, médecin coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination. Les équipes circulent dans les quartiers et avenues selon un programme préétabli, précise-t-il. Pendant ce temps, une femme qui a fait vacciner ses enfants exhorte ses pères à suivre son exemple.
J'ai déjà apprêté les enfants pour les vaccins. Ils sont vaccinés. Je demande que les autres mamans qui refusent la vaccination, c'est une mauvaise passée pour que les enfants puissent prendre les vaccinations. Ils seront aussi épargnés de la poliomyélite.
Cette campagne de vaccination est organisée afin d'épargner les enfants de cette épidémie paralysante. Voilà qui justifie les appels pressants des autorités politiques et sanitaires à l'endroit des parents pour faire vacciner leurs enfants. Le médecin chef de division provinciale de la santé par intérim, Bitoko Lituli, explique que le virus de polio est très contagieux.
Un enfant victime de polio peut contaminer 200 enfants. Et avec les mouvements de la population, il faut faire d'abord la couverture pour l'ensemble de la province.
Le gouverneur des provinces se dit impliqué dans la sensibilisation et promet tout son soutien pour sa réussite. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Toujours en santé cette fois, dans les territoires de Lubero, au Nord Kivu, plusieurs structures sanitaires de la zone de santé de Biena peinent à fonctionner normalement en raison de l'insécurité persistante due à l'incursion des rebelles, explique Valentin Kamua Kisambi, médecin chef de zone. Il alerte sur le risque de rupture de l'accès aux soins si rien n'est fait et appelle une intervention humanitaire urgente. Valentin Kamua Kisambi est joint au téléphone par Guylaine Kassassia.
La situation sécuritaire dans la zone de santé a commencé à se dégrader depuis le mois de juin 2024 avec l'incursion des présumés ADF Nalu. Avec cette situation, il y a eu un déplacement massif de la population et près de 3/4 des établissements de soins de la zone de santé ont été momentanément fermés. Maintenant, avec tout ça, il y a eu une instabilité totale sur le plan sanitaire parce que avec tous ces mouvements de la population de va-et-vient, donc la population est devenue démunie. Et maintenant, ça augmente les endettements des centres de santé pour se procurer des médicaments. Au mois de janvier et février 2025, il y a eu 8 centres de santé qui ont fermé momentanément leurs portes. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a encore 6 centres de santé qui ne sont pas encore fonctionnels. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas d'organisation qui appuie les déplacés internes au niveau de la zone de santé. Nous sommes en train vraiment de craindre que le centre de santé puisse être vraiment en difficulté.
En Ituri, depuis le début de l'année, au moins une dizaine de décès dus à des avortements criminels ont été recensés dans la zone de santé des Mangala et à Mungwalu, dans les territoires de Djougou. Ces chiffres ont été rendus publics mardi dernier par le bureau de la division du genre famille et enfants lors d'une interview exclusive à Radio Okapi. Les victimes sont principalement de jeunes filles mineures qui se livrent à la prostitution pour survivre dans le site minier contrôlé par des miliciens. Le chef des zones de santé déplore cette pratique qui met en danger la vie des habitants. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Le bureau de la division du genre famille et enfants dans le territoire de Djougou s'est dit fortement préoccupé par l'augmentation sensible des cas de violences sexuelles faites aux filles et mineures dans la zone de santé des Mangala. Ici, des adolescentes, faute de moyens, se livrent à la prostitution dans des sites miniers. La plupart vendent des petits articles aux creuseurs artisanaux sous les contrôles des miliciens tandis que d'autres y sont carrément employés. Situation similaire à Mungwalu, une autre zone minière. Ruth Biwaga affirme qu'au moins 10 décès de la mère ou de l'enfant dus aux avortements clandestins sont déjà répertoriés en l'espace de 3 mois. Les victimes recourent souvent à des méthodes contraceptives pour provoquer l'avortement, ce qui les conduit parfois à la mort.
Des avortements criminels, dans des pharmacies, il y a des décès des enfants, filles, après des viols, dans des sites miniers. Mais il y a plus de données dans la communauté qui n'arrivent pas à notre niveau parce que vous voyez avec le manque de la restauration de l'autorité de l'État pose un problème sur
le terrain. Le médecin chef des zones de santé de Mangala indique que la prise en charge reste encore faible. Avec l'appui des humanitaires, il promet d'intensifier les séances de sensibilisation de la population au danger de cette pratique criminelle. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Le médecin membre du CIMECO se sont réunis hier jeudi à Kinshasa pour leur tout premier congrès ordinaire 13 ans après la création de ces syndicats. Selon le bureau d'organisation du congrès, ces 13 années ont été consacrées à la mise en place et à l'implantation du CIMECO à travers toute la République. Venus de toutes les provinces du pays, environ 430 médecins vont discuter pendant 3 jours des questions liées au développement d'une intelligence et d'une force collective afin de mener des actions à la hauteur des défis sociaux. Parmi ces défis figurent les conditions de travail des médecins, la reconnaissance en grade pour certains et la qualité de soins. Docteur Juvenal Mwanda, secrétaire exécutif national du CIMECO, présente les grandes lignes de ce premier congrès au micro de Billy Ivan Lutumba.
Premièrement, l'opinion doit s'attendre à voir les CIMECO redynamisés à l'issue non seulement des débats et discussions qui devront permettre de donner de nouvelles orientations à la marche du CIMECO, mais aussi ce congrès a le mérite de pouvoir élire un nouveau bureau national qui aura à présider aux destinées du CIMECO pendant 4 ans. Ben, c'est dans un contexte, je dirais, extrêmement difficile. On sait que les conditions de travail des médecins demeurent difficiles. La rémunération est ce qu'elle est actuellement. On sait que, comme vous le savez, le traitement de base spécifique du médecin lui conféré par les statuts spécifiques n'est pas encore accordé. Et donc, c'est justement toutes ces questions que nous allons essayer de réfléchir pour savoir comment nous allons devoir relever les défis qui s'imposent à nous au regard de cette situation.
Bouclons ces chapitres. Comment assurer la sécurité alimentaire en RDC? Cette question était au cœur d'un atelier tenu mercredi à Kinshasa, organisé par le mouvement Scaling Up Nutrition et le secrétaire exécutif du programme national de nutrition. Cette réunion a rassemblé plusieurs experts des cabinets ministériels. À l'issue de l'atelier, les participants ont notamment recommandé d'élaborer une politique spécifique pour chaque secteur afin de lutter contre la malnutrition. Reportage Étienne Lissumbo.
Les différentes parties prenantes se sont réunies pour discuter et sensibiliser sur la proposition de la loi qui vise à promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle en RDC. Tade Katembo, professeur des universités, député national et porteur de la loi, explique les contenus de cette loi.
Elle montre les objectifs qu'on doit poursuivre dans la sécurité alimentaire. Après, elle indique le cadre institutionnel, comment sera organisée la sécurité alimentaire depuis le sommet de l'État jusqu'au niveau des entités territoriales décentralisées, comment sera financée la sécurité alimentaire au niveau de notre pays.
Pour sa part, Dr Bruno Bindamba, directeur de la Pronanut, relève les difficultés qui rencontre la population aujourd'hui sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Il a été démontré qu'aujourd'hui nous avons 27 millions de la population congolaise qui est en insécurité alimentaire. Ça représente à peu près un quart de la population congolaise. Ça, c'est un grand défi. Nous devons améliorer aussi les programmes de nutrition dans moins de 80% des outils éducatifs parce que tout passe par l'éducation et la recherche.
Signalant que cette loi est déjà alignée au niveau de l'Assemblée nationale.
Parlons sécurité. Dans le territoire de Beni, la société civile de la localité de Baswaga Lubena exprime son inquiétude face à l'augmentation de l'insécurité dans le centre commercial des cantines situé à environ 50 km à l'ouest de la ville de Beni. Selon son président, plusieurs cas de cambriolage, de tentatives d'assassinat et d'extorsion de biens par des hommes armés ont été signalés depuis le début du mois. Le cas le plus récent remonte à dimanche dernier, lorsqu'un jeune boutiquier a été tué par des hommes armés. Moussoubao Aliamimi Tchétché appelle les services de sécurité à redoubler d'efforts pour protéger la population et à rendre justice aux victimes. Il est au micro de Marc Marofimbo.
L'agression est liée dans une rue pendant la nuit, ce qui souligne une insécurité qui veut s'accroître dans notre zone. dans la cité des cantines. Aussi, nous demanderons des réunions avec les responsables des enquêtes et pour obtenir des mises en jour régulières sur l'avancement du dossier. Et une fois les tireurs identifiés, nous exigerons que ce procès soit public à cantine, afin d'assurer que justice soit rendue de manière transparente. La situation actuelle nécessite une réponse rapide et coordonnée pour garantir que justice soit faite.
Notons que l'auteur de cette fusillade a déjà été arrêté par le service de sécurité. Dans la province du Tanganyika, le groupe armé Fimbo na Fimbo a accepté d'adhérer au programme de désarmement volontaire. Le leader de cette milice, Michel Bintoto, a rencontré mardi dernier les autorités provinciales à Kalemi. Il a symboliquement remis une arme à feu, des munitions et des flèches aux autorités. Ces miliciens ont commis des atrocités dans plusieurs villages et localités, notamment Moulangé, Koki, Mwaka, Kambilo et plusieurs autres villages. Pendant Munanga nous fait le point.
La cérémonie se déroule dans la localité Moulangé, située à 20 km au sud de Kalemi, dans le groupement Tumbwe. Le ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika, accompagné par les commandants de la 22e brigade de FRDC, échange avec le chef de la milice Fimbo na Fimbo, Michel Bintoto. Celui-ci exprime la disponibilité de l'adhésion de sa milice au programme de désarmement volontaire, rapporte les services de communication et d'information des forces armées section du Tanganyika. Les autorités de la province soulignent que pour leur démobilisation volontaires, les miliciens vont adhérer au processus de réinsertion et de la coordination nationale dénommée la réserve armée de la défense RAD en sigle. Le service de communication et d'information de l'armée précise que ce programme facilite la coordination et l'identification des mouvements armés opérant sur l'ensemble du territoire national. De son côté, la milice demande une prise en charge de l'État congolais et promet que les troupes vont sortir incessamment de la brousse. Sur place, le gouvernement fournit à Bintoto et quelques hommes qui l'accompagnent un lot de vivres.
Actualité internationale.
En Guinée, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation organisera le scrutin de fin de transition, remplaçant ainsi la commission électorale nationale indépendante CENI en place depuis 2010. Plusieurs responsables de la transition avaient déjà évoqué cette option ces derniers mois et c'est désormais officiel. L'annonce a été faite mercredi dernier en Guinée lors d'une conférence de presse tenue par Djenna Boutouré, directrice nationale chargée des affaires politiques et de l'administration électorale au sein du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Elle a ajouté que les autorités mettront en place un observatoire permettant aux représentants de partis politiques et de la société civile de contrôler et de superviser les actions du ministère. Cependant, cette décision ne fait pas l'unanimité. Plusieurs partis politiques réclament le rétablissement de la CENI jugée plus impartiale.
L'invité.
La synergie des missions d'observation citoyenne des élections, CIMOCEL, considère la publication de la nouvelle feuille de route de la CENI comme injustifiable et incompréhensible. Lors de son intervention sur Radio Capi, Luc Loutala, coordonnateur de CIMOCEL, a recommandé au Parlement de rejeter ce document et d'exiger de la CENI un calendrier électoral actualisé accompagné d'un budget. Il a également encouragé le gouvernement à finaliser l'évaluation du processus électoral en cours. Luc Loutala s'est entretenu avec Blaise Ndongala Mayanda. Suivez. Bonjour Monsieur Luc Loutala.
Bonjour Monsieur Blaise Ndongala.
Quelle analyse faites-vous de la publication de la feuille de route électorale 2025-2029?
On a du mal à comprendre pourquoi la CENI peut publier une feuille de route en ce moment, parce que cela ne fait l'ombre d'aucun secret que la CENI dispose d'un calendrier qui s'appelle le calendrier électoral qui courait pour la période allant de 2022 à 2027. Et l'on sait qu'il y a eu un budget et que la CENI devait épurer toutes les opérations. Mais c'est totalement surprenant, incompréhensible, injustifiable de voir que la CENI publie une feuille de route dans laquelle elle reprend des opérations qui étaient déjà dans son calendrier électoral et donc ce qui va amener à une double planification et donc à une double budgétisation aussi pour la même période. Cette feuille de route soulève énormément plus de problèmes en termes de compétences, d'opportunités.
Alors quelle est selon vous l'incidence de ces documents sur les plans sociopolitiques?
C'est un document de repositionnement de la CENI. On suppose que c'est pour avoir un nouveau budget et se relancer dans les activités parce qu'on a vu qu'ils prévoient de refaire une cartographie alors qu'ils ont déjà une cartographie qui n'a même pas 2 ans et ils ont prévu de refaire l'identification des électeurs. Donc on pense que c'est juste un document de repositionnement de la CENI et qui ne sert en rien la cause de la démocratie.
Vous avez un message à lancer au nom de la CIMOCEL aux autorités politico-administratives, pourquoi pas à la population congolaise.
Oui, nous demandons à l'Assemblée nationale, donc au Parlement qui est à l'Assemblée nationale qui est le tuteur de la CENI, de récuser de faire l'audit de la CENI. Mais en même temps, nous demandons au gouvernement d'organiser une évaluation globale, inclusive du processus électoral pour essayer de recréer le consensus et un minimum de confiance entre les parties prenantes. La population, nous l'appelons à ce qu'elle sache que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il ne faut donc pas accepter que on nous impose une démocratie qui est la démocratie des institutions, où les élus ont le pouvoir qui vient des institutions pour servir des institutions et ne pas servir la population.
Que répondez-vous, monsieur le coordonnateur, à ceux qui penseraient que la CIMOCEL appelle la population à se soulever?
La CIMOCEL ne peut pas appeler la population à se soulever. La CIMOCEL appelle la population à devenir consciente. Vous savez que l'avenir d'un pays réside dans la conscience de sa population. Donc ceux qui disent ça n'aiment pas la population. On ne peut pas aimer la population et demander à la population de ne pas s'assumer dans ses droits civiques et citoyennes.
Monsieur Luc Lutala, nous vous disons merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci beaucoup.
Notre invité, Monsieur Luc Lutala, coordonnateur de la synergie de mission d'observation citoyenne des élections. CIMOCEL répondait aux questions de Blaise Ndongala Mayanda. Ainsi se termine notre édition d'aujourd'hui. Mise en œuvre par Polydor Basunga, supervision par Pélékipé Lamondo, présentation par Gisèle Cage. Nous vous remercions de votre fidélité, de votre attention. Pour plus des nouvelles et d'analyses, restez avec nous. Excellente journée à tous.